Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints donc à l'espace Ozone pour parler de Pascal avec nos deux invités, Laurence Plazanet, bonsoir, Pierre Liraud, bonsoir. Alors vous êtes un tandem franco-canadien,
franco-français, mais franco-français, Pierre est émigré au Canada.
On va expliquer les relations de Pierre Liraud avec le Canada. Voilà, donc pour l'édition de cette œuvre. Alors, on dira pourquoi vous n'avez pas écrit œuvre complète sur la couverture, mais œuvre de l'œuvre tout simplement. Un gros pavé de 2000 pages. Pascal le vaut bien par l'ampleur de son œuvre. Vous avez donc choisi de le faire pour le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, né en 1623, mort en 1662, donc à la pas tout à fait 40 ans.
39 ans et 2 mois.
Voilà, 39 ans et 2 mois, merci pour la précision. Alors, Laurence Plazanet, puisque vous me parlez, vous êtes professeur de littérature française donc du XVIIe siècle à l'université Blaise Pascal, comme il se doit, donc à Clermont-Ferrand.
Non, pas comme il se doit, parce que nous sommes en France. Donc cette université s'appelait l'université Blaise Pascal et elle a été débaptisée au moment de la fusion avec les autres universités de Clermont pour devenir l'université Clermont-Auvergne.
Voilà, mais on va l'appeler l'université Blaise Pascal.
C'est un peu regrettable cette année, mais voilà.
Voilà, on va l'appeler.
C'est typiquement français.
Voilà. Enfin, donc feu l'université Blaise Pascal, mais en fait, on l'appellera-t-elle de cette façon-là ce soir. Et donc, vous dirigez un centre international dédié à Blaise Pascal, et puis vous êtes à la tête aussi d'une société des Amis de Port-Royal. Port-Royal, donc. Qui a joué ce monastère, cette congrégation qui a joué un si grand rôle donc dans la vie de Blaise Pascal et de sa famille. Pierre Liraud, donc vous êtes professeur adjoint, donc vous n'êtes pas canadien mais français, mais en revanche vous enseignez à Montréal, donc professeur adjoint dans cette université. Vous êtes l'auteur d'une thèse qui est parue l'année dernière sur les figures de la finitude chez Pascal. Je m'attendais à trouver donc un universitaire chenu. En fait, vous êtes un universitaire très jeune. C'est très réjouissant pour.
Je parais jeune. Attention.
Il est jeune.
Très réjouissant puisque voilà, ça signifie que Pascal donc intéresse les jeunes générations, donc universitaires et j'espère aussi des lecteurs. Alors donc ce livre est une somme. Alors c'est pas la première fois que Pascal a été édité donc de façon complète. Vous citez au début de votre ouvrage des éditions historiques. Alors je l'ai découverte, donc celle de Jean Ménard en 1964, une autre donc qui a été édité dans la Pléiade, donc il y a 25 ans à peu près, en deux volumes. Donc vous nous direz peut-être quelles sont leurs qualités, leurs inconvénients, et pourquoi il a fallu donc aujourd'hui proposer aux lecteurs une nouvelle édition de Blaise Pascal. Alors, c'est évidemment la première question que je vais vous poser. Pourquoi aujourd'hui, en dehors du fait que nous fêtons le 400e de sa naissance, pourquoi faut-il aujourd'hui présenter une nouvelle somme autour de l'œuvre de Pascal? Madame Plazanet.
Parce que, en réalité, vous avez mentionné l'édition Jean Ménard. L'édition Jean Ménard, qui était destinée à faire autorité, n'est pas complète. Jean Ménard avait prévu 7 ou 8 tomes et n'en a fait que 4. Et dans le premier des volumes, qui est l'équivalent d'un livre de la Pléiade, il était très fier de n'avoir pas publié un seul texte de Pascal, ne publiant que des texte relatif à la vie de Pascal, à la famille de Pascal, à la réception de Pascal. Donc c'était parti pour être une somme absolument exceptionnelle. Or, il n'a pas terminé, il n'a même pas donné les provinciales. Et on n'a pas non plus les pensées. Donc la grande aventure, la grande édition du XXe siècle de Pascal n'a en réalité jamais vu le jour. La grande édition précédente, c'était l'édition Brunswick et Gazier, disons, après.
Qui est plus ancienne.
Qui était plus ancienne, qui datait du début du siècle. Et puis l'édition Le Guerne a fait des choix de lecture qui, à nos yeux, sont des choix très largement contestables. Donc il y avait vraiment matière à reprendre l'édition de Pascal.
Pierre Liraud.
Oui, j'ajouterais seulement que on va y revenir sans doute, mais l'œuvre de Pascal est vraiment terrible à éditer. C'est vraiment un défi. Je crois que la préface s'appelle défi, mais c'est pas du tout galvaudé. C'est parce que c'est un texte à plusieurs égards inéditable, mais on peut quand même faire un progrès doucement mais sûrement dans l'établissement du texte, par exemple. Et vous mentionnez l'édition de la Pléiade, qui est l'édition de Michel Le Guerne, qui est une très bonne édition, avec une annotation tout à fait intéressante, se trompe parfois dans la lecture des manuscrits. On peut progresser en comparant attentivement le manuscrit, dans le déchiffrage tout simplement des manuscrits. D'autant que l'édition de Le Guerne datait donc des années 90, ça faisait 30 ans quand même que la recherche pascalienne avait avancé, et il fallait pouvoir prendre en compte les 30 années de la recherche pascalienne qui a avancé non seulement dans le déchiffrage des manuscrits, mais aussi dans l'exploration des sources de Pascal, dans l'interprétation de sa pensée. Et il fallait pouvoir actualiser les notes, également l'appareil de notes, les introductions, les préfaces qu'on a consacrées à Pascal, pour donner un Pascal contemporain.
Il y avait aussi un choix qui, pour tous les deux, était absolument essentiel, c'était la manière de présenter les textes, leur répartition. C'est-à-dire que dans l'édition Le Guerne, qui est la dernière édition complète, ou quasi complète, qui existent, les textes sont donnés, réunis de manière thématique. Les œuvres scientifiques d'un côté, les œuvres dites spirituelles, les œuvres de polémique. Et cela donne une représentation de la création pascalienne qui est totalement fausse, puisqu'en réalité, il a passé son temps à travailler simultanément ces différents chantiers. Donc nous, il nous a paru vraiment opportun de rétablir autant que possible une présentation qui était une présentation chronologique et historique des textes, pour qu'on puisse saisir le mouvement d'une pensée dans la diachronie, mais aussi dans son extraordinaire complexité et l'enchevêtrement de la réflexion scientifique et de la réflexion morale qui vont de pair chez Pascal et qui sont même totalement indissociables.
Alors Pierre Liraud, vous avez mentionné le fait que c'était une œuvre en partie inéditable. Bon, vous avez relevé le défi, hein, mais alors vous avez mentionné évidemment, on se souvient tous que les pensées sont notamment son livre le plus connu, en tout cas du grand public, est un texte en fragments. Mais quelles sont les autres difficultés qui font de Pascal un auteur très difficile à éditer? Pourquoi cette œuvre est-elle si particulière?
Oui, alors bon, on peut revenir quand même un instant sur le cas des pensées, puisque vous l'évoquez. On peut tout à peine dire que les pensées est un livre de Pascal, puisque les pensées, c'est une invention éditoriale. Quelques années après la mort de Pascal, ses amis ont trouvé des papiers dans son bureau, ont trouvé qu'il y avait là matière à publication, parce qu'ils étaient tout à fait frappés par le génie qui s'y découvrait, et ont décidé de faire un livre qui, après quelques péripéties, s'est intitulé « Pensées de Monsieur Pascal sur la religion et quelques autres sujets ». Pascal n'a jamais écrit un livre qui était destiné à s'appeler Pensée, pas même à l'état de projet. On a quelques pensées qui s'appellent Pensée, mais c'est vraiment très localisé, et jamais il n'aurait voulu écrire un livre qui aurait été intitulé Pensée. Donc c'est vraiment une création éditoriale. Ce qu'on édite habituellement sous le titre de Pensée, c'est une somme de brouillons. On en reparlera tout à l'heure. Il y a au sein de ces brouillons quelque chose qui ressemble à un projet de livre. C'est une partie des pensées, mais c'est même pas un tiers des pensées. C'est peut-être 200, 300 pages des pensées. Le reste des pensées, c'est-à-dire quand même 500, 600 pages, ce sont des brouillons divers, des brouillons, des dossiers sur lesquels il travaillait et qu'il n'a pas du tout achevé. Il commençait à travailler sur les miracles et puis il a abandonné. On a les fragments d'un traité sur le vide dans les pensées également. On a des fragments spirituels dont on ne sait pas bien ce qu'il voulait faire. Et on a réuni tout ça.
Des notes sur les provinciales.
Des notes sur les provinciales, également plein d'autres brouillons. Et on a réuni ça sous le titre de pensées. Ça, c'est une première difficulté. C'est parce qu'il faut essayer de prendre en compte le désordre dans lequel étaient les papiers quand ses amis les ont trouvés à sa mort, et on peut essayer de s'approcher, non pas de l'ordre voulu par Pascal, mais de l'ordre du désordre initial, si je puis dire, du désordre dans lequel on a trouvé les papiers, tout simplement parce que ses amis ont copié les papiers tels qu'ils les ont trouvés pour les léguer à la postérité. Et ils nous ont rendu un grand service, c'est qu'ils ont déchiffré pour nous, ils ont commencé à déchiffrer pour nous le manuscrit. Et ça, c'est une autre difficulté terrible. On doit toujours revenir sur le manuscrit de Pascal quand on édite les pensées. Mais l'écriture de Pascal, je vous invite à aller voir un manuscrit de Pascal sur Internet, c'est pire qu'un médecin. C'est vraiment le pire de l'écriture des médecins qu'on puisse trouver. Il a une écriture absolument indéchiffrable. Quelques fragments sont déchiffrables parce qu'ils sont écrits par un secrétaire ou par sa sœur, parfois. Mais sa propre écriture, tous les fragments autographes sont quasiment impossibles à déchiffrer. Donc ça, c'est une autre difficulté. La grande difficulté pour toutes les autres œuvres, c'est qu'on n'a quasiment aucun autographe. C'est-à-dire que les textes originaux de Pascal ont été perdus. Ils ont été déplacés, ils ont été conservés un temps, puis perdus dans des incendies, dans des déplacements de bibliothèques. Et on doit se fier à des copies. Le problème dans la traduction, dans la transmission des manuscrits, c'est que quand on fait une copie, très vite, on fait une seconde copie, puis une troisième copie, puis une quatrième copie. Et le temps passant, on ne sait plus quelle était la copie la plus ancienne. Et on se retrouve face à, pour certains textes, 20 copies dont on a du mal à reconstituer le chemin de transmission. Et on ne sait plus ce qui doit prévaloir. Donc la grande difficulté pour les autres textes, c'est de pouvoir reconstituer un texte le plus fidèle possible à ce que Pascal aurait pu projeter. C'est souvent des conjectures, c'est souvent des hypothèses. On n'est jamais sûr que le texte qu'on donne à lire, c'est exactement le texte que Pascal voulait écrire. On est obligé, en comparant les copies, en faisant des hypothèses, en disant Pascal a tendance à utiliser cette formule, donc on va plutôt privilégier cette copie qui maintient la formule plutôt qu'une autre qui ne la maintient pas. On doit comme ça avancer par interpolation progressivement pour essayer de reconstituer un texte satisfaisant. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, pour les provinciales, c'est un autre problème. Là, nous n'avons même pas de copie manuscrite. En revanche, nous disposons de plusieurs versions qui présentent toutes des changements ou de ponctuation ou des changements de mots, d'expression parfois, de chacune des provinciales. Alors ça, au moment même où elles sont rééditées, c'est un énorme succès de librairie, donc elles sont rééditées immédiatement, parfois de façon ce qu'on appelle pirate, hein, c'est-à-dire que ce sont des éditeurs qui les impriment alors, sans y être autorisés et en introduisant des modifications dont on ne sait pas exactement si elles sont volontaires ou pas volontaires. Et puis le texte lui-même a été modifié lorsque le groupe de Port-Royal a réuni les 18 provinciales pour les publier, les donner ensemble. Alors, il y a différentes étapes de la constitution de ce recueil et puis une dernière étape où on a lissé les choses. Alors est-ce qu'on préfère prendre, comme on le fait souvent quand on édite un texte, la dernière version parue du vivant de l'auteur en considérant qu'elle a eu son aval et qu'elle est donc la version souhaitable, ou comme dans le parti que j'ai pris, c'était au contraire de prendre les premières versions des plaquettes telles qu'elles avaient été publiées, parce que là on est sûr que c'est Pascal et que c'est pas l'intervention de Nicole, et c'est beaucoup plus vert, beaucoup plus cru, beaucoup plus satirique et drôle.
Ces 18 provinciales s'échelonnent sur combien de temps?
Une petite année, voilà.
Pas plus.
Non, assez bref.
De janvier 1656 jusqu'à mai 57 pour la publication de la 18e.
Alors, donc, on a l'impression, à vous entendre, que pour éditer donc l'œuvre de Pascal, il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, beaucoup de carrefours. J'allais dire, on peut peut-être avoir des dizaines et des dizaines de possibilités de proposer au lecteur donc une œuvre complète, une œuvre. Alors, votre part. Madame Pazdani, vous avez dit que l'ordre que vous avez choisi était plutôt un ordre chronologique, dans le sens où il importait de ne pas séparer ce qui chez Pascal, qui donc est un esprit un peu universel, ce qui chez lui ressort de la recherche scientifique, de l'apologie, de la religion, des réflexions de moralistes, des travaux divers, tous les sujets sur lesquels il a voulu exercer son esprit. Donc vous avez plutôt voulu prendre tous ces aspects de son œuvre de façon plutôt chronologique pour montrer la concomitance de ses réflexions, c'est bien ça ?
La concomitance, c'est pas seulement, en réalité, donner à lire un texte et éditer un texte, c'est très largement déjà entré dans la question de l'interprétation. Au XIXe siècle notamment, l'idée s'était imposée qu'il existait d'abord un Pascal qui était scientifique et qui aurait été saint d'esprit. Et puis malade, ensuite, il se serait converti, il serait devenu chrétien. Et là, on aurait eu l'émergence de ce moraliste désespéré, à moitié fou, ce misanthrope sublime, pour reprendre l'expression célèbre. Or, cette interprétation et cette lecture de Pascal ne tient absolument pas quand on regarde la manière dont il travaille et l'ordre suivant lequel il progresse. Donc, si vous voulez, donner les textes au fur et à mesure de leur création, c'est aussi couper net à toutes ces légendes sur Pascal du 19e siècle. Donc, je crois vraiment, avec Pierre, on voulait aider le public à se débarrasser, parce que de manière sempiternelle, on commence à accumuler un certain nombre d'interviews à nous deux. Et puis alors, avec l'année Pascal, c'est encore plus nombreux qu'avec le volume. Or, on nous renvoie toujours à un Pascal du 19e siècle. qu'aujourd'hui, la recherche a montré être totalement caduque.
D'ailleurs, il y a un Pascal du 17e, il y a un Pascal du 18e, un Pascal du 19e, un Pascal du 20e. Alors aujourd'hui, on va peut-être parler d'un Pascal du 21e. Quelle a été en gros l'évolution de la vision de Pascal depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui ? Vous avez mentionné un aspect, mais il y en a d'autres.
Oui. Alors, bon, on simplifie évidemment. Au XVIIIe siècle, on a tendance à faire de Pascal une sorte d'être paradoxe ou d'être paradoxal. On admire sa prose. Diderot, par exemple, est un très grand admirateur, comme Voltaire, du reste, est un très grand admirateur de sa prose.
Sa prose tranchante.
Sa prose tranchante, le style bref des provinciales que Diderot aime beaucoup, le style un peu par maxime des pensées.
Ce talent de polémiste.
Absolument, ce talent de polémiste.
Voltaire dit à propos des provinciales que c'est le plus bel état de la langue française. C'est le plus grand écrivain de langue française. Oui.
En reconstituant un peu les faits, mais bon, c'est ce qu'il dit. On voit bien son admiration malgré ce qu'il en dit ailleurs. Et c'est toujours ça le paradoxe au XVIIIe siècle, c'est qu'on admire donc le génie littéraire, mais on met de côté, et le génie scientifique également, mais on met de côté tout ce qu'il a pu écrire sur la religion pour des raisons diverses. Voltaire, évidemment, ne lui pardonne pas ce qu'il a dit du christianisme, cette aspiration qu'avait Pascal de réunir raison et christianisme, on y reviendra peut-être. Diderot dit la même chose à son égard. Et c'est un petit peu cette lecture qui domine au XIXe siècle, qui se renforce de façon toujours un peu paradoxale, parce que un des grands lecteurs de Pascal au XIXe siècle, et qui a beaucoup aidé à redécouvrir le manuscrit, c'est Victor Cousin, qui en 1842 a fait un rapport qui est célèbre, du moins parmi les pascaliens, parce que c'est un rapport qui nous encourage à revenir au manuscrit, ce qu'on ne faisait pas, on se contentait de republier des copies. Et Victor Cousin, fait dans un rapport pour la Sorbonne, dit qu'il est impératif de revenir au manuscrit de Pascal. Donc il a été quelqu'un d'absolument important dans l'histoire de la tradition pascalienne. En même temps, Victor Cousin, dans ce rapport-là, est hostile à Pascal pour ce qu'il appelle l'apologie de la religion chrétienne. Et d'ailleurs, on a tendance à dire que les pensées, c'est une apologie de la religion chrétienne, mais c'est Victor Cousin, en fait, qui les lit, les pensées, comme une apologie de la religion chrétienne. Le titre n'existait pas auparavant. Dans sa bouche, c'est vraiment une insulte. Hein. Apologie de la religion chrétienne, ça ne peut être que le produit littéraire et philosophique d'un esprit, comme tu le disais, d'un esprit malade, d'un esprit qui a avoué...
Il n'arrive pas à être philosophe.
Voilà, qui avoue sans cesse l'inconsistance de la raison et qui s'est perdu dans des considérations spirituelles, alors qu'il aurait mieux fait de se mêler des expériences sur le vide toute sa vie. Donc c'est paradoxal parce qu'il y a, voilà, vous voyez, au XIXe siècle, des gens qui vont contribuer hautement à la redécouverte de Pascal, mais qui en même temps lui tiennent toujours rigueur de quelque chose. C'est la même chose dans les milieux catholiques. Sur la Troisième République, à la fin du siècle, il y a beaucoup, Pascal est au programme de classes de ce qu'on appelle aujourd'hui la terminale. On met les provinciales et on met les pensées parce qu'on se dit c'est une œuvre classique, c'est une très belle œuvre, on doit les enseigner. Mais en même temps, les catholiques proches plutôt des jésuites plutôt que des jansénistes, je mets des guillemets, considèrent qu'il est impossible de donner Pascal tel qu'il est et vont donc s'atteler à faire des éditions expurgées. Ils vont publier des provinciales en notant les phrases les plus problématiques. Ils vont donner des éditions des pensées lourdement annotées avec des notes très moralisantes en disant attention, ce que dit Pascal là est très dangereux. Il ne faut pas que vous vous en nourrissiez le soir parce que vous pourriez mal tourner si c'était le cas.
Désespéré,
vous pourriez sombrer dans l'abîme. Donc il y a une transmission perpétuelle de Pascal, mais avec beaucoup de garde-fous qui sont pris. Je crois que c'est vraiment au tournant du XXe siècle. Il faut attendre au moins 1950-1960 pour qu'il y ait des lectures un peu plus apaisées, disons, de Pascal.
Donc c'est vraiment...
Faut-il dire qu'aujourd'hui, il y a deux Pascal. Il y a le Pascal dont Pierre et moi allons vous parler, qui est un Pascal universitaire, hein, de gens qui s'emploient par la recherche à renouveler des lectures et à se rapprocher du sens qui pouvait être celui de l'auteur à l'époque où il a écrit. Et puis, il y a le Pascal sur lequel ou à partir duquel écrivent les écrivains, qui n'est pas nécessairement le nôtre. Bien au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour les ouvrages de Jean-Philippe Toussaint. Je trouve la salle de bain infiniment réjouissante. Alors, vous savez que dans ce roman, le protagoniste lit les pensées et suite à cela va rester dans sa baignoire à méditer. Or, quand j'ai discuté avec Jean-Philippe Toussaint lisait une très vieille édition Brunswick des pensées qui est à l'encontre de tout ce que Pierre et moi pouvons contribuer à faire connaître comme image ou à répandre comme image de Pascal. Vous voyez. Donc là aussi, attention, il y a notre discours, j'allais dire, de savant, et puis, ou d'érudit, et puis il y a une image de Pascal qui est encore entachée de légende, de, en un sens de fausseté, mais qui n'en est pas moins extrêmement vivace et créatrice, féconde.
Alors, vous avez parlé de foi, de raison. L'idée qu'on peut avoir, donc, en vous le disant, et bien, l'idée qui était déjà présente, c'est que Pascal est à la fois un homme de foi et un homme de raison. Un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les phénomènes, sur les faits. C'est-à-dire qu'il a une véritable vision scientifique du monde, et puis de chercheur, d'expérimentateur. Et puis, en même temps, il contemple l'abîme de la métaphysique, voilà, avec les yeux d'un homme qui cherche et qui trouve, en tout cas qui veut, qui pense pouvoir nous expliquer, hein, qui est Dieu, ou en tout cas le chemin qui mène vers lui. Donc c'est à la fois paradoxal et en même temps peut-être c'est ce que c'est l'idée la plus peut-être la plus juste qu'on peut avoir de lui, c'est ces deux aspects parfaitement complémentaires.
Je crois que d'abord il faut essayer de contextualiser ou d'historiciser votre réflexion. Je crois que l'idée qu'il y ait
pas une réflexion, c'est un constat.
Oui, mais justement l'idée qu'il y ait un conflit entre foi et raison est une idée qui naît au fond à l'âge classique, à l'époque de Pascal, au moment où les fondements épistémologiques de notre propre civilisation, tels qu'ils perdurent aujourd'hui, sont en train d'être posés, c'est-à-dire en gros avec la révolution copernicienne et galiléenne, où on s'aperçoit aussi, en travaillant sur les Écritures, en réfléchissant à l'histoire, que le récit qui était donné de la création, notamment dans la Genèse, n'est pas valable. Donc se crée à ce moment-là une faille dans l'esprit des individus où tous les récits fondateurs de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, apparaissent comme frappés d'invalidité. Et c'est à ce moment-là que va naître l'idée que peut-être la raison et le savoir contredisent les données de la foi, les données immédiates de la foi. Mais il n'y a a priori aucune raison pour que la foi ne soit pas raisonnable et rationnelle. Je pense qu'aucun homme du Moyen-Âge ou de l'Antiquité tardive n'aurait jamais eu idée de soutenir quelque chose de ce genre, si vous voulez. Nous considérons comme allant de soi quelque chose qui est le résultat d'une période historique, somme toute, très, très proche de nous au regard de l'histoire de l'humanité. Et ça, effectivement, Pascal va avoir l'originalité de s'employer à montrer, en étant un des maîtres de cette science moderne, que la foi est néanmoins quelque chose de raisonnable, que croire est raisonnable.
Le fameux pari. Hein.
Alors, tu veux y aller sur le pari?
Oui, bah, allez-y. Oui.
C'est un...
Plusieurs lectures.
Plusieurs lectures, c'est vraiment un fragment... très difficile. Alors, d'abord, le pari, ce n'est pas un fragment de Pascal, puisque ce qu'on appelle le pari, c'est un raisonnement, disons, ou un discours que Pascal a longuement travaillé, et on a conservé le papier très heurté. On voit qu'il a écrit partout, dans les marges, et qu'il est beaucoup revenu sur ce fragment-là. Et le vrai titre de ce fragment n'est pas le pari, mais infini rien. Ça commence par infini rien. Ce qui déjà déplace notre perspective, parce que ça veut dire que le pari, c'est un moment du discours de Pascal, mais qui est placé sous... un raisonnement autrement plus général, hein, sur notre disproportion, en gros, sur d'un côté l'infini en grandeur et
l'homme entre deux infinis.
L'homme entre deux infinis. Pour résumer, ce que vous disiez est à la fois juste, hein, et un peu partiel sur l'articulation de la foi et de la raison, mais on le voit bien dans le pari. Souvent, quand on lit Pascal, soit on le considère comme trop rationnel, le pari, soit on le considère comme pas assez rationnel. Or, Pascal, c'est vraiment quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu se tenir dans le milieu des choses. Sa grande idée de la vérité, mais pas seulement de la vérité, c'est son idée existentielle, la grande affaire de sa vie, c'est la médiété, c'est le milieu des choses. Pascal dit dans un fragment, hein, qu'il faut être contre, je paraphrase un peu, hein, contre l'hyper-rationalisme et contre la superstition, ce qu'il appelle la superstition, c'est-à-dire... croire que la raison ne peut rien, hein, croire, je sais pas, une chose absurde parce qu'on va dire qu'il faut le croire et on met la raison sur pause en quelque sorte, comme si l'homme n'était pas aussi un être rationnel. C'est un peu sous cet angle-là qu'il faut voir son rapport à la foi. Pascal n'est pas un mystique au sens où Pascal ne dit jamais qu'il faut clamer une sorte de désaveu de la raison. Il ne dit jamais qu'il faut s'en livrer simplement à une sorte de foi superstitieuse en abandonnant la raison, en la mettant de côté, parce que la foi n'est pas une affaire de raison. Jamais il le dit. Même dans ses textes les plus spirituels, il y a un très beau texte de Pascal qui s'appelle « L'écrit sur la conversion du pécheur », où il écrit l'élévation d'une âme qui vient d'être touchée par Dieu et qui progressivement... va vers lui, c'est un texte qui est aussi rationnel. Il dit très bien que l'âme comprend peu à peu, c'est un trajet intelligent. C'est pas du tout au fur et à mesure qu'on croit et que la grâce s'infuse dans l'âme de celui qui est touché par Dieu, la raison aussi progresse. Par contre, il dit aussi qu'il ne faut pas tomber dans le travers inverse et croire que la foi est entièrement rationnelle et qu'on peut déduire toutes les composantes de la foi, la Trinité, la nature du Saint-Esprit, par la raison. Ça, Pascal est agacé devant les tentatives de certains de ses contemporains qui consacrent des traités ensemble sur la Trinité et qui nous expliquent comment les trois personnes dialoguent entre elles, comment elles s'articulent, quelle est la nature de chacune d'entre elles. Ça, pour Pascal, et Saint-Augustin y compris. On y reviendra, Pascal est vraiment un augustinien, mais il n'aime pas du tout la partie de Saint-Augustin qui s'aventure vers ces chemins hautement escarpés de la raison. Ça, il l'a lu dans Montaigne. Il se tient très loin de ces élaborations-là. C'est pour ça que on ne pourrait pas dire, ce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal veut en même temps montrer qui est Dieu à son interlocuteur. Pascal ne peut pas dire qui est Dieu. Pascal ne veut d'ailleurs pas montrer quoi que ce soit. Il veut à la fois, dans une part de son œuvre, témoigner de sa propre expérience de croyant et des difficultés à être croyant, et de l'autre, il veut faire son possible... Si la grâce l'assiste, évidemment, il n'arrête pas de le dire. Il dit, moi, je ne veux pas convertir qui que ce soit, je ne peux pas convertir. Le seul qui peut convertir, c'est Dieu. Moi, je ne peux rien faire si Dieu m'assiste pas en infusant la grâce chez mes lecteurs. Par contre, il peut essayer d'inquiéter l'homme, il peut essayer de le troubler, il peut essayer de lui dire, ah, mais tu fais ça dans ta vie courante, est-ce que tu as raison de faire ça? Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais est vraiment rationnel, est vraiment raisonnable? Et c'est ça un peu le pari. Le pari, ce n'est pas la victoire de la raison.
Je crois qu'il s'adresse aussi à ces esprits forts qu'il fréquente dans ses travaux scientifiques, ceux qu'on appelle souvent les libertins au XVIIe siècle, qui pensent pouvoir se passer, faire l'économie du divin. Et il s'agit aussi de leur montrer, en termes rationnels, qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et c'est une façon de prouver qu'il est raisonnable et rationnel de croire et de faire le pari du divin et de la divinité. Ça, c'est très clair. Après, effectivement, on peut considérer que le pari est une espèce de fable herméneutique destinée à prouver cette rationalité de la foi. Est-ce qu'il n'est malgré tout pas possible, à un certain moment, de considérer qu'il y a une radicalité du pari qui est de dire « je ne reçois pas la grâce, je n'ai pas le sentiment de la foi, mais je fais le pari de la foi » qui est totalement impossible. Je crois que rien ne nous empêche non plus de considérer qu'on peut lire le texte de cette façon-là. Et en faisant à ce moment-là ce qu'il appelle le pari de la machine.
Alors évidemment dans le livre, vous publiez le mémorial. Vous avez dit que Pascal n'était pas un mystique. Il y a néanmoins donc dans sa vie cette fameuse nuit de novembre 54. Donc voilà où donc il a ce moment de vérité, de transe, de je sais pas comment il faut l'appeler, de d'émotions profondes, voilà, et donc qu'il cache à tout le monde puisqu'il se contente de tracer un texte sur un papier qu'il va coudre dans son pourpoint et qu'on retrouvera donc à son décès. Là, il y a évidemment une expérience d'ordre mystique.
C'est un moment de certitude. Oui. Je crois que dans tous les textes de Pascal, on voit que la foi chez lui est une affaire aussi de reflux et d'incertitude. Il ne cesse de prier que Dieu ne m'abandonne jamais, qui seraient également les derniers mots qu'il aurait prononcés avant de mourir. Donc ça nous montre bien qu'on n'a pas un personnage qui est totalement passé du côté d'une certitude, d'une assurance quelconque. Pascal s'adresse d'abord, je crois, à tous ceux qui sont dans le clair-obscur, voire dans la nuit complète, qui doutent, qui sont inquiets. Et ça correspond probablement à une expérience tout à fait personnelle. La conversion, et on parle de plusieurs conversions chez Pascal, mais parce qu'en réalité, la conversion est toujours à reprendre. C'est une espèce d'effort à réitérer, et au fond, il n'y a de conversion qu'incoative, que commençant et à reprendre l'instant suivant. Alors, ce qui s'est passé cette fameuse nuit, c'est un moment de certitude éblouissant, probablement d'une intensité telle que Pascal n'en avait jamais connu auparavant et dont il a voulu conserver une trace écrite parce que ça a été au cœur d'une révélation personnelle et quelque chose qui l'a guidé jusqu'au dernier temps de sa vie.
Oui, si je peux ajouter simplement deux choses sur le mémorial, c'est, si je puis dire, ça ne lui est pas tombé dessus. Il ne s'est pas réveillé un moment et il y a eu une transe, comme vous dites, avec la révélation de Dieu. Il y a une lettre de sa sœur, Jacqueline, dont il était très proche, qui nous dit que Pascal sentait depuis un an le dégoût du monde, un an avant le mémorial. Donc on sait que de 7 novembre 1653, l'automne 1653, jusqu'à l'automne 1654, au moment du mémorial, il y a déjà eu cette sorte de préparation, cette sorte de dégoût croissant pour le monde qui l'a mené à cette fameuse nuit de 1654. Donc, on le voit souvent comme une rupture très nette dans sa vie, comme un événement, comme un moment qui ferait la bascule entre une période et l'autre. C'est pas vraiment le cas. C'est l'aboutissement, je dirais, d'un an de réflexion sur la vanité du monde, la gloire du monde. Et j'ajouterai une deuxième chose sur le mémorial. C'est pas un petit gribouillis que Pascal a écrit après ce sentiment de certitude. Si on lit le mémorial, même dans sa première version, puisqu'on a deux versions du mémorial, hein, il l'a écrit une première fois de façon un peu hâtive et puis il l'a repris le papier, il l'a réécrit. On a perdu le deuxième papier, mais on a eu ce qu'on appelle au XVIIe siècle une copie figurée, qui est une photographie, tout simplement l'ancêtre de la photographie. Hein, une main décalque très précisément les contours, la graphie du papier et les dessins probables. Même dans le premier papier, c'est quelque chose de très argumenté. C'est vraiment une argumentation. C'est pas simplement quelques mots qui sont jetés comme si ça lui passait par la tête. Pas du tout. Au fur et à mesure du mémorial, on voit bien qu'il met en place un dispositif, il joue sur des citations, quasiment un poème, hein, le mémorial.
Il y a des citations, il y a des citations
bibliques. Voilà. Alors, il est disposé sur la page aussi de façon quasiment calligramatique. Hein.
Oui,
c'est
oui.
Un poème. Hein,
oui. Donc on ne peut pas le lire hein, comme un papier très hâtif, écrit dans la fulgurance d'un moment. Non, c'est quelque chose de très pensé.
Oui, je voulais ajouter quand Pierre disait que c'était l'aboutissement d'une longue évolution, qu'on en a une trace très concrète dans son déménagement. C'est-à-dire qu'il habitait rive droite à Paris et avant le mémorial, il va habiter rive gauche dans ce qui est vraiment l'extrémité de la capitale au XVIIe siècle, vraiment à une porte de Paris, rue aujourd'hui au 54 de l'actuelle rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement, parce que c'est l'endroit où, en étant encore à l'intérieur de l'enceinte de Paris, il est le plus près du monastère de Port-Royal où sa sœur est religieuse.
C'est la route de Port-Royal. Hein,
Oui, je ne sais pas si c'est la route de Port-Royal.
C'est le chemin, c'est le sud de Paris.
Oui, c'est ça.
Et c'est plutôt le quartier religieux de Paris.
Oui. Bon, on sort de Paris pour entrer dans le quartier qui était encore bâtissable et où, de fait, on trouve le Val-de-Grâce et toutes sortes de couvents parce qu'il y avait encore de la place à cet endroit-là. Donc, c'est une décision mûrement réfléchi. Voilà.
Vous notez dans toutes les introductions qu'il y a une des difficultés, mais qui n'est pas propre à Pascal, mais qu'il est d'une époque où on ne parle pas forcément de soi. Pascal n'est pas quelqu'un qui parle de lui, en tout cas sous un angle, très personnel, comme on voudrait le faire ou comme on le ferait aujourd'hui. Et il n'y a pas d'autobiographie de Pascal. Il y a par contre des textes familiaux, puisque sa sœur Gilberte, notamment, a écrit un beau texte sur son frère. Bon, et puis il y a des échanges épistolaires avec sa sœur. Sa sœur parle de lui aussi. C'est sa deuxième sœur, Jacqueline, celle qui rentrera donc à Port-Royal. Donc on connaît Pascal, on connaît des éléments de la vie de Pascal, de la vie matérielle de Pascal. Bon, on sait qu'il était un homme fragile de santé. On sait que qui a connu de nombreuses crises. On connaît ses déménagements. On connaît un certain nombre de choses. Mais néanmoins, c'est pas quelqu'un qui s'étale, question de pudeur, question de culture. Ça, c'est une difficulté peut-être aussi pour des éditeurs d'aujourd'hui qui veulent rentrer dans l'œuvre et peut-être apporter une nouvelle lecture, une nouvelle
vision. Ah non, c'est un bonheur.
C'est un bonheur.
Ah oui, quelqu'un qui ne s'étale pas à l'âge des réseaux sociaux, c'est absolument...
Non, mais je suis d'accord. Je suis
c'est un bonheur
d'accord
son nom.
Oui, c'est certainement,
Il reste une énigme, Pascal. Il reste une personnalité qui ne dit pas tout d'elle-même, qui n'entend pas tout dire d'elle-même. Pour un chercheur, c'est bien plus excitant d'avoir une réserve, quelque chose à percer, qu'un individu qui vous livre absolument tout. D'autre part, on ne l'aperçoit que fugitivement et de biais, et ça, c'est un très typique du grand siècle, de toute façon, de ce XVIIe siècle pour lequel on a tant de passion tous les deux, c'est que les individus considèrent qu'il y a une sphère de l'intime et une sphère du public, ou de ce qu'on appellerait de manière un peu prétentieuse l'extime, si vous voulez, ce qui n'est pas à l'intérieur de soi, et opère une coupure très nette. Donc les individus ne nous disent pas tout de leur intériorité, et aucun d'entre eux. Nous ne savons quasiment rien sur Madame de Lafayette. On court après les informations relatives à Molière. Donc le cas Pascal n'est pas un cas particulièrement atypique.
L'année dernière, on s'est attaqué à Molière. En effet, Molière, voilà. C'est un peu la même chose. Hein.
Oui.
Il y a peu d'éléments.
Parce que les individus de cette période considèrent que les choses très intimes qui relèvent de l'ordre du domestique, du privé, n'ont aucun intérêt pour le public, tout simplement.
Bon, en revanche, ses sœurs parlent de lui, hein, ce que je l'ai mentionné. Donc, qu'apprend-on d'intéressant, donc Pierre Liraud, donc lorsqu'on lit les lettres de Jacqueline, lorsqu'on lit le texte de Gilberte, au fond, elle dévoile un certain nombre de choses quand même sur son frère.
Oui, ce sont des textes qu'il faut prendre avec le plus grand sérieux. Jacqueline est très proche de Pascal, surtout au moment où Pascal se convertit. Alors, la conversion au XVIIe siècle, c'est toujours un terme que j'emploie un peu avec précaution, parce que ça ne veut pas dire qu'il passe d'une période où il ne croyait pas en Dieu à un moment où il a la révélation de Dieu et il se met à croire. Se convertir au XVIIe siècle, ça veut dire pratiquer de façon un peu plus fervente qu'avant la foi. On passe d'un état un peu tiède envers la religion à un état un peu plus chaud, si je puis dire, envers la religion. Donc quand on parle de conversion de Pascal, puisque vous avez employé tout à l'heure le terme, hein, les trois conversions de Pascal, ce sont trois moments où il décide d'être un peu plus fervent, d'être un peu plus pratiquant, si je puis dire. Alors Jacqueline nous apprend beaucoup sur sa vie spirituelle, sur la vie affective de Pascal, notamment au moment 54, pendant la période de sa conversion. Il y a une lettre très belle, par exemple, de janvier 55, où Jacqueline raconte la joie de son frère. Et c'est d'autant plus émouvant que Jacqueline ne sait rien du mémorial, puisque vous avez dit que, à juste titre, hein, Pascal cache l'événement qui a été le mémorial, ou le moment qui a été le mémorial, en cousant le papier dans son manteau. Donc Jacqueline ne sait rien de cet événement, mais voit sur le visage de son frère, dans la vie de son frère, une joie qu'il n'avait pas auparavant. Donc on a une sorte de journal de la joie, si je puis dire, dans les lettres de Jacqueline de 55, qui sont vraiment très belles à lire.
Elle s'étonne de voir un pénitent aussi réjoui.
Aussi, oui. Voilà. S'interroge de la joie de son frère. Quant à la vie de Monsieur Pascal, c'est un petit peu différent parce que c'est une construction a posteriori. Autant les lettres de Jacqueline sont écrites au fil de la vie de Pascal.
Oui.
Voilà, la vie de Monsieur Pascal.
Autant le texte de Gilberte Perrier est postérieur.
Est postérieur, absolument, à la mort de Pascal. Alors c'est un texte magnifique que je.
Mais avec une intention, une intention apologétique sur son frère.
Agiographique, édifiante, oui. Peut-être, oui. On pourrait dire. Il y a un grand pascalien, Philippe Sellier, a un jour proposé de lire la vie de Monsieur Pascal comme une légende. C'est le mot qu'il employait, une légende au sens du Moyen-Âge, c'est-à-dire
comme la légende dorée de Jacques de Voragine.
Absolument, c'est-à-dire un texte avec une dimension exemplaire. C'est un texte où on lit une vie qui est dépouillé d'un certain nombre de ses traits pour mieux correspondre à ce que doit être une vie exemplaire d'un point de vue de la religion. C'est ce que fait Gilberte, hein. Elle donne un tas de renseignements importants sur Pascal, mais elle en omet aussi beaucoup pour rendre son frère exemplaire, pour faire de son frère le portrait du bon chrétien, si je puis dire, celui qui sait mourir, qui sait vivre en articulant correctement la religion au reste de sa vie.
Oui, il y a une poétique de la vie de saint. On raconte la vie du personnage en insistant sur les souffrances, sur le caractère exceptionnel de sa conversion. Donc on a tendance à forcer sur les noirceurs de l'individu pour montrer combien l'œuvre de Dieu a été grande ensuite. Et puis il y a toujours un second versant qui est plus généralement thématique, où on exalte les vertus. Alors la vie de Pascal est précédée d'une vie de Jacqueline qui est morte en octobre, le 4 octobre 1661. Donc la petite sœur qui était religieuse à Port-Royal est morte la première. Et Gilberte Perrier, la sœur aînée, a rédigé aussi une vie de sa sœur jusqu'à son entrée au couvent, qui déjà répond à ses objectifs et qui a pu être une commande des religieuses de Port-Royal qui, à cette date-là, faisait écrire des vies de toutes les religieuses qui mouraient. Donc ce genre de la vie de saint est évidemment appliqué et très clairement repérable dans les vies des religieuses. Et je pense qu'en réalité, Gilberte applique le modèle valable pour les religieuses à la vie de son frère ensuite.
Alors donc, le texte de Gilberte est donc, vous l'avez dit, plutôt une hagiographie. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous étiez à Rome il y a très peu de temps, donc pour le jour anniversaire de la mort de Pascal. Et donc Pascal au Vatican est un peu en odeur de sainteté, puisque le pape actuel, qui est un jésuite d'ailleurs, lui a consacré une lettre apostolique. Donc tout le monde se demande s'il n'y a pas là l'indice d'une future béatification et canonisation de Blaise Pascal, ce qui serait évidemment de la part d'un pape venant de la Compagnie de Jésus plutôt savoureux, puisque on sait la guerre que Pascal a menée contre la guerre polémique qu'a menée contre les jésuites de son époque. Voilà, donc il y a une sorte de renversement assez savoureux. Vous avez senti ça donc au Vatican, ce retournement?
Alors tout le monde attendait entre dimanche soir et lundi matin. Il y a eu une espèce de boule de feu qui s'est construite, parce que tout le monde attendait effectivement l'annonce d'une béatification à défaut d'une canonisation express, laquelle n'a pas eu lieu. Et à la place, on a eu la publication d'une lettre apostolique qui est déjà un événement tout à fait exceptionnel dans la vie du Vatican. Le pape François a publié 6 lettres apostoliques. La dernière était consacrée à Dante, le grand poète italien. Donc on peut mesurer l'importance qu'il convient de donner au geste du pape. C'est absolument essentiel. C'est vrai que lorsqu'on lit, en étant pascalien, la lettre pour la première fois, et je l'ai eue quelques jours avant tout le monde, puisque j'étais invitée avec 2 autres collègues à en parler et en discuter lors d'une conférence de presse 2 heures après sa publication. Le premier sentiment, c'est celui d'une surprise, de se dire c'est ce pape jésuite qui effectivement accorde une reconnaissance exceptionnelle à Pascal, alors même que les pensées ont été mises à l'index dès 1657. La seconde réflexion, c'est qu'en réalité, le pape François n'a cessé de citer Pascal et de se référer à Pascal depuis ses tout premiers textes. Donc Pascal est une figure absolument marquante pour le pape et une figure qu'il lit de manière un peu différente de nous, mais dans laquelle il voit surtout le modèle d'une conciliation entre la foi et la raison et la science moderne. Donc pour le pape, je crois que Pascal est exemplaire de cette conciliation. C'est donc une figure qui pourrait être tutélaire pour le chrétien d'aujourd'hui. Et à ce titre, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il entend passer du même coup, au-delà de la querelle qui a agité jansénistes et jésuites.
Alors, Pierre Liraud, peut-être qu'on peut quand même rappeler quand même le fond de la querelle, parce que voilà, oui, donc c'est quand même très, très, très important. Donc, c'est les 18 provinciales donc, mm-hmm, qui font l'intervention de Pascal dans ce débat.
La querelle date d'avant.
Voilà, hein, voilà. Donc, il apporte cette intervention décisive. Oui. Donc, c'est une querelle autour de la question de la grâce. Alors, expliquez-nous sur quoi portait le conflit.
Oui, alors... En gros, j'ai l'impression que je passe mon temps à dire en gros, mais bon, dossier est tellement difficile. Il y a eu au XVIe siècle, la querelle a débuté au XVIe siècle. Il y a eu des discussions importantes sur l'articulation, pour le dire vite, entre la grâce et la liberté. Comment on coordonne ou on articule la grâce de Dieu à la liberté de l'homme? Est-ce qu'on met l'accent sur la grâce de Dieu, auquel cas on semble réduire la liberté de l'homme, ou est-ce qu'on met l'accent sur la liberté de l'homme, sur sa libre initiative, auquel cas on semble réduire la part de la grâce de Dieu et on en fait une sorte d'assistante seulement qui accompagne, coopère à la liberté de l'homme? Ce qui met le feu aux poudres dans l'Europe des théologiens au XVIe siècle, c'est un livre de Louise de Molina qui écrit un gros livre sur ce problème-là et qui semble accorder une place qui sera jugée un peu plus tard démesurée à la liberté de l'homme. C'est la position de Molina, je simplifie parce que c'est quand même une position nuancée, c'est un très bon théologien, mais c'est vrai qu'il fait figure de grand promoteur de la liberté de l'homme.
Molina est jésuite.
Et jésuite, voilà, contre la grâce de... La grâce de Dieu. Alors ça, cette espèce d'ultra-promotion de la liberté de l'homme, ça ne plaît pas à ceux qu'on va appeler par la suite janséniste. Le nom janséniste étant tiré de Jansénus, qui est un évêque et qui intervient dans le débat, alors même que l'Église avait interdit de se mêler au débat, avait pas trouvé la solution pour articuler la grâce et la liberté, mais avait dit c'est un problème compliqué, il vaut mieux ne pas intervenir. Jansénus, lui, est intervenu avec un énorme livre qu'on appelle l'Augustinus et qui se proposait en quelques, 2000-3000 pages, très serrées en plusieurs colonnes, de faire le point sur ce débat de la grâce et de la liberté, de revenir à Augustin et de dire la réponse, elle est chez saint Augustin. Il faut simplement revenir au père de l'Église, saint Augustin. Je vais vous expliquer ce que saint Augustin pensait et vous verrez qu'il n'a pas voulu promouvoir la liberté de l'homme, mais avant tout, c'est la grâce de Dieu qui doit l'emporter. Là se noue déjà le débat, le conflit, si je peux dire, entre les jésuites et les, à la suite de Jansénus, qu'on va appeler les jansénistes. D'un côté, ceux qui vont promouvoir la liberté de l'homme, de l'autre, ceux qui vont promouvoir la grâce divine. Des débats théologiques un peu sans fin s'en suivent, et ce qui met vraiment le pied aux étriers, disons, à Port-Royal, donc à Pascal et à ses amis, c'est qu'un ami proche de Port-Royal se voit refuser l'absolution à Paris. Ce qui est un peu étonnant, parce que ça veut dire qu'un débat théologique est devenu vraiment affaire publique. Si on refuse, c'est-à-dire quelque chose qui était censé rester dans les bibliothèques des savants, devient un peu démesuré dans la vie quotidienne des gens. Antoine Arnaud, qui est un ami proche de Pascal, se dit « ça, c'est insupportable, je vais défendre mon ami et je vais défendre Jansénus ». Arnaud est exclu du rang des docteurs de la Sorbonne. Vous comprenez que ça s'engraine, si je puis dire, et Pascal, on fait appel à Pascal parce qu'Arnaud avait tenté seul de mener la polémique, mais Arnaud, qui est un excellent théologien, est pas un excellent écrivain. Il écrit de façon un peu lourde, si je puis dire. Ce qui n'est pas le cas de Pascal. Pascal est un remarquable publicitaire, il a la plume acerbe, vive, etc. Donc on va chercher Pascal.
Ils le savent grâce aux polémiques scientifiques qu'il a déjà menées. Tout le monde sait
quelques textes qu'il a
publiés. C'est un roi de l'argumentation.
Voilà, un roi de l'argumentation et de la satire. Donc on va chercher Pascal parce qu'on a besoin de quelqu'un qui, dans l'espace public, sera extraordinaire. Un publiciste, absolument un publiciste.
Qui va s'adresser à l'opinion publique. En fait, pour gagner ce débat qui, entre théologiens, est en train de prendre une mauvaise tournure, probablement pour les partisans d'Augustin, il faut faire appel à l'opinion publique, puisque tous les individus sont concernés par une question qui engage leur salut éternel. Et pour ça, il faut écrire en français, il faut écrire d'une façon qui va séduire les esprits et le grand monde, l'élite intellectuelle, si je puis dire, de la période. C'est ce que Pascal sait faire.
Et l'astuce, donc, c'est de le faire sous forme de ces lettres à un provincial.
Voilà, qui représente le provincial en question est censé être un naïf qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces polémiques qui déchirent absolument tout le pays ? Je vais aller me renseigner. » Et il part avec son chapeau. Il va voir des jésuites. Il va voir des jansénistes et il est également exactement comme une balle de flipper, c'est-à-dire qu'il se le renvoie les uns après les autres et de lettre en lettre, on le voit. Alors il se précipite chez l'un, il dit j'ai la solution, je vais voir les autres, la guerre va arrêter. Il arrive chez l'autre, il dit mais non, pas du tout, vous n'avez pas compris, allez voir le troisième dominicain. Oups, il fonce. Alors c'est drôle parce qu'en fait, ce sont des petites scènes de théâtre extraordinairement enlevées avec des satires. Ce qu'on n'a pas dit quand même, et ce qu'il faut préciser, c'est que l'ami en question, la raison pour laquelle on lui a. Alors, qui il est. Il s'agit du duc de Liancourt, qui est une des ducs et pairs de France, donc une des personnalités les plus importantes de la France de l'époque, et accessoirement l'oncle de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. Donc on est vraiment dans un milieu qui fait sens. La deuxième chose, c'est qu'on lui a refusé l'absolution. Pourquoi ce grand seigneur ? Parce que sa petite fille et unique héritière, qui était orpheline, était élevée comme pensionnaire au monastère de Port-Royal, lequel s'est trouvé embarqué dans la querelle autour de l'augustinisme et de la grâce, parce que la mère Angélique, la grande réformatrice du monastère de Port-Royal, a pris comme directeur spirituel au milieu des années 1620, Jean Duvergier d'Oran, abbé de Saint-Cyran, qui a été le compagnon d'études de l'évêque Jansénus à Louvain. Donc, il était lui aussi un fervent augustinien. Et comme Jansénus est mort prématurément de la peste, Saint-Cyran a veillé à l'édition de l'Augustinus. C'est pour ça que Port-Royal, et ça, c'est absolument vital pour notre histoire intellectuelle française, s'est trouvé basculer dans cette querelle.
Alors, vous avez mentionné le fait que cette querelle a été une querelle terrible, hein, quand même, dans la France de l'époque. Alors,
évidemment, pas que dans la France, dans toute l'Europe. Voilà, je pense que l'Europe chrétienne a redouté un second schisme après le schisme.
Alors, quelle est aujourd'hui la portée de ce conflit ? Est-ce qu'on parvient encore à bien le comprendre aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne paraît pas un peu loin des préoccupations, y compris des intellectuels aujourd'hui ? Ou est-ce qu'au fond, vous considérez que cette querelle est toujours fondamentale ? Lorsqu'on l'analyse à la fois dans son contenu et puis aussi dans les échanges d'arguments, comment un débat public s'est organisé autour d'une question importante.
Il me semble que la querelle purement janséniste est la querelle de la grâce. D'ailleurs, il suffit de lire la lettre apostolique du pape. Il déclare qu'il ne veut pas rouvrir cette querelle. En revanche, il s'en prend violemment à Port-Royal. Donc, c'est l'exemple de Port-Royal qui devient porteur de cette crise et qui partage les esprits. Mais très paradoxalement, en réalité, Port-Royal incarne un christianisme qui est un christianisme extrêmement moderne, c'est-à-dire qu'on pratique le français et pas le latin, on traduit le bréviaire, on traduit la Bible, hein, la fameuse Bible de Port-Royal. Il y a une ecclésiologie très particulière à Port-Royal, un goût de la sobriété à une époque où, au contraire, les jésuites se distinguent par leur goût du faste et leur goût de l'hyperbole, par ce qu'on appelle le baroque, que l'on voit régner dans les églises romaines. Il suffit d'aller au Jésus et on se rend compte de ce dont il s'agit. Port-Royal, au contraire, incarne un christianisme de l'intériorité, d'une forme de rigueur. J'ai pas dit de désespoir ni de sécheresse, hein, mais une forme de rigueur, un engagement auprès des plus pauvres, des plus démunis, ce que certains appellent ceux qui ne sont rien aujourd'hui, qui est absolument capital et qui, méfions-nous des assimilations qui sont toujours grossières, mais à bien des égards, annonce Vatican II et très paradoxalement recoupe le message du pape actuel.
On est un siècle après les guerres, enfin, on est un bon siècle après les guerres de religion, enfin, trois quarts de siècle, on va dire. Fait, ouais. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que le jansénisme, par exemple, c'est une sorte de catholicisme teinté quand même de protestantisme ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, la présidente des Amis de Port-Royal refuse ça.
Ça ne me paraît pas du tout à Pascal.
Dans la mesure où le jansénisme met en avant la liberté d'examen, ce rapport direct à la Bible, est-ce que c'est pas un héritage indirect de la réforme ?
Absolument pas. Absolument pas. D'abord, Antoine Arnauld a écrit un livre qui s'appelle Le fantôme du jansénisme. Le jansénisme est une étiquette qui a été créée par les jésuites au moment de la polémique pour dire que les partisans de l'Augustinus ou de la relecture de Saint-Augustin par l'Augustinus et Jansénus appliqueraient en réalité une grille de lecture qui ne serait pas augustinienne mais viendrait de Jansénus et serait au fond hérétique de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose. Ils ont eux-mêmes assez violemment combattu les protestants. Ils font le pari de l'intelligence et de la raison. Mais on ne trouve pas de discours vers le libre examen. Enfin, il y a des frontières très nettes, et notamment quant à la question de la grâce. Il y a une prédestination forte pour les protestants. L'action de la grâce est irrévocable et définitive, limitant à presque rien la liberté humaine. Tandis que Port-Royal a une conception de la grâce où la liberté humaine trouve sa part. C'est-à-dire que la liberté, en réalité, charmée, séduite par l'action de la grâce, ne lui résiste pas et coopère avec la grâce divine.
Donc la ligne de clivage, elle est vraiment sur cette question de la grâce, hein, dont on parle.
Au XVIIe siècle,
oui. Au XVIIe siècle.
Je pense qu'aujourd'hui, s'il existe une sensibilité qu'on pourrait peut-être plus qualifiée d'augustinienne ou de port-royaliste que de janséniste. C'est une étiquette qui ne me convient pas tout à fait, parce que c'est une étiquette polémique, et les étiquettes polémiques sont toujours grossières. Et relativement inexactes et inopérantes. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, ce soit la question de la grâce divine qui nous recoupe. En revanche, les questions d'ecclésiologie, le rapport à l'intériorité, un rapport à l'humilité, un discours sur les passions de l'homme, une vision de l'homme, hein, homme déchu, pas déchu, la part du progrès, là, ce sont des questions qui nous touchent tous. Et en France, je pense que la question est encore moins affaiblie par le fait que ce courant théologique a eu une postérité politique au XVIIIe siècle, achevant de complexifier le système.
Biro, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Non, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Laurence. Je dirais simplement, sur la question du luthérianisme, Pascal ne parle pas du protestantisme, mais du luthérianisme, il y a un verbe que j'aime beaucoup, il a écrit un texte sur la querelle de la grâce, il ne s'est pas simplement mêlé de la querelle pour les provinciales, il a aussi, quelques mois avant, en fait, les provinciales, écrit un très beau texte qui s'appelle « Les écrits sur la grâce », inachevé lui aussi, comme tous les autres écrits de Pascal. Et il emploie un verbe... que je trouve frappant pour parler du luthérianisme, il dit que les luthériens, ils scient la liberté humaine, comme une scie.
Ils scient comme une scie,
c'est-à-dire qu'ils retranchent l'homme d'une part importante de ce qu'il est, la liberté. Et encore une fois, Pascal, c'est l'homme du milieu.
Oui.
Il faut tenir ensemble la grâce humaine et la liberté, tout en reconnaissant, évidemment, la grâce divine comme première par rapport à la liberté de l'homme. Mais le maître mot, c'est coopération.
Pour terminer cet entretien, je voudrais parler de quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Le Tour de France cycliste donc, va monter le Puy de Dôme en ce 400e anniversaire de la naissance de Pascal. J'y suis très sensible, puisque donc on va escalader cette montagne sur laquelle il a fait des expériences tout à fait fondamentales.
Il a envoyé son beau-frère des expériences. Voilà. Alors, protestant parce que le beau-frère allait un peu trop.
Alors, est-ce que vous êtes content de cette coïncidence ?
Alors personnellement, je m'en fiche complètement.
Vous qui êtes.
Je n'ai aucune hygiène de vie. Vous m'auriez parlé du vin, d'énologie.
Mais vous pourriez
là,
monter.
J'aurais réfléchi.
On pourrait vous proposer de monter donc au sommet avec un carrosse à 5 sous.
J'aurais piqué des chevaux. Ah,
puisque Pascal avait inventé donc la première compagnie de taxi, donc vous pourriez peut-être monter jusqu'au sommet de cette montagne qui domine votre ville de résidence pour admirer donc l'arrivée des coureurs. Je suis assez touché moi de cette coïncidence, pas vous, Pierre Liraud ?
Non, je m'en fiche aussi, mais. Proposez-moi par contre de monter avec un carrosse à 5 sous Puy de Dôme, je le ferai volontiers.
Bon.
Je crois que ça secoue beaucoup.
Je tente. Alors,
enfin, c'est quand même une occasion pour vous de dire
l'université Clermont-Auvergne
de ses expériences scientifiques.
Oui. L'université Clermont-Auvergne a reconstitué un carrosse à 5 sous, un grandeur nature, et a fait un petit film en réalité virtuelle qui permet de se promener dans le Paris de l'époque en étant assis à l'intérieur du carrosse. Et j'ai fait le scénario, puisque c'est un petit film évoquant les différents événements qui s'étaient déroulés au cours de cette année extrêmement importante, 1661, 1662, et ça se situe juste après la mort de Pascal. Voilà. Donc on peut avoir néanmoins, la création de l'université se déplace dans plusieurs villes, et les municipalités ou les institutions qu'ils souhaitent peuvent la louer. Donc, si vous voulez vraiment aller dans un carrosse à 5 sous, c'est possible.
Ouais. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pierre Liraud et Laurence Plasnet, donc, pour cet échange. Donc, je rappelle que vous avez édité l'œuvre de Pascal, donc Bouquin Mola. Donc, c'est une coédition Bouquin et Mola. Donc, nous sommes ici chez l'éditeur aussi. Voilà, merci beaucoup de ce travail gigantesque et fondamental. Voilà.